Bonsoir à tous. Nous accueillons ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Christian Salmon, qui vient nous présenter son dernier livre qui est paru il y a déjà à peu près 6 mois aux éditions La Découverte, et qui s'intitule Storytelling. Alors pour la première fois dans le cycle Questions de société, nous n'accueillons ni un sociologue, ni un économiste, mais un écrivain. Un vrai écrivain, chercheur également au CNRS et fondateur du Parlement international des écrivains. Dans votre livre Storytelling, vous vous penchez sur une pratique bien connue de tous, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires, aux grands comme aux petits, et vous montrez la transformation de cet art en une technique qui n'a plus rien ni d'anodin ni d'enfantin, puisqu'elle envahit aujourd'hui de nombreux domaines de la vie. On s'est beaucoup attardé sur l'aspect politique de votre thèse, mais il y a aussi, on peut aussi penser au domaine du marketing, du management. Et vous prenez même des exemples, malheureusement, dans des situations de conflit dans le monde. Alors, mise au service du pouvoir, quel qu'il soit, cette technique de communication révèle toute son efficacité, et vous la qualifiez même d'outil de propagande. Donc je vous laisse nous la présenter, et probablement aussi nous mettre en garde contre ces sortilèges.
Merci, merci de votre invitation et de m'accueillir. Merci à vous d'être venu. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible parce que pour ceux qui auraient ne serait-ce que parcouru la terre des matières du livre, vous avez sans doute pris connaissance du fait que c'est un sujet qui concerne énormément de champs d'activité, du savoir, de domaine discursif, et que donc la difficulté dans un temps réduit, c'est de bien montrer la manière dont il s'agit dont ce discours du storytelling, en fait, s'empare d'un certain nombre de domaines, en commençant par le management, puis le marketing, la communication politique, vous y avez fait allusion, mais aussi l'entraînement des militaires, par exemple, des techniques d'apprentissage. Donc, si on veut parler comme Michel Foucault, il s'agit plus d'un véritable dispositif de pouvoir-savoir plutôt qu'une simple technique de manipulation. En ce sens, c'est pourquoi d'ailleurs je participe volontiers à ce genre de rencontres. La réception des médias, que les médias ont fait de ce livre, je ne vais pas m'en plaindre, elle a été très très présente, mais elle a tendu un peu à simplifier les choses, hein, en faisant entendre dans le storytelling uniquement le fait de raconter des histoires. Vous avez certainement entendu ça dans les radios, les télévisions. Le mot maintenant est devenu presque d'un usage courant. Dire comment les hommes politiques ont raconté des histoires. Alors, c'est évidemment le cas. Il se trouve en plus qu'on est dans une période de notre vie politique et institutionnelle où les exemples abondent de ces hommes politiques qui nous racontent des histoires dans le sens le plus trivial du terme. Mais il serait dommage de réduire la portée de cette nouvelle technique de communication à ces, disons, manipulations du pouvoir politique. Alors je voudrais, pour être rapide, quand même essayer d'expliquer l'apparition du phénomène, parce que, comme ça ne vous aura pas échappé, l'art du récit, l'art de raconter des histoires, est aussi vieux que l'humanité. Sauf que ce dont je parle, ce n'est pas de cet art du récit qui, par ailleurs, m'intéresse, puisque à l'origine, moi, je suis plutôt quelqu'un qui réfléchit à la notion de fiction, de récit, de roman. Et j'ai plutôt passé toute une partie de ma vie à défendre l'art du récit, l'art authentique du récit, contre les censures, contre les différentes orthodoxies, que ce soit religieuses, politiques ou même scientifiques, qui depuis Cervantes, en fait, tendent à limiter l'espace du récit, l'espace du roman. Donc il n'y a pas de malentendu. On peut défendre, aimer les histoires, et j'allais même dire, plus on les aime, plus on doit être attentif à ce détournement du storytelling, de l'art du récit, au profit de conduites, soit de manipulation, soit d'influence, soit de publicité, de discours publicitaire, enfin différentes choses, mais qui sortent un peu du champ de l'expérience. Alors vous me direz, quelle est la différence entre ce que vous appelez storytelling et le roman, par exemple, ou l'art du récit ? Ben, pour vous montrer qu'il s'agit de deux choses bien différentes, d'abord je voudrais rappeler une chose, c'est que d'une certaine manière, depuis l'apparition du roman moderne, la littérature a toujours été en conflit avec le storytelling de l'époque, c'est-à-dire avec des tentatives de détournement de l'art du récit à d'autres fins. Si vous prenez le plus bel exemple, c'est Cervantes avec Don Quichotte. Qu'est-ce que c'est que Don Quichotte, sinon un storyteller avant la lettre, ou un storyteller qui s'ignore ? Puisque loin d'éclairer une expérience réelle, comme c'est le cas du roman, il essaie d'imposer à la réalité des schémas, des signes qu'il a empruntés. C'est-à-dire que dans le cas de Don Quichotte, on a des schémas narratifs qu'il a dans sa tête et qu'il essaie de coller à la réalité. Et donc, quelqu'un comme Cervantes nous alerte contre ce danger-là. Michel Foucault disait de Don Quichotte, il fait le chemin de l'épopée à l'envers. Oui, donc Michel Foucault disait Don Quichotte fait le chemin de l'épopée à l'envers. Ça veut dire quoi ? Ben, très simplement, l'art du récit, depuis ses origines, avant même qu'il y ait des techniques d'imprimerie, encore moins des techniques d'enregistrement, en quoi ça consistait ? Ça consistait à être un vecteur de l'expérience et des leçons de l'expérience. C'est-à-dire que l'humanité vivait une expérience et elle en transmettait les leçons, comme dit Walter Benjamin, à propos dans son texte sur le narrateur. Et il y avait donc des techniques même dans l'énonciation de ces récits, la prosodie, qui permettaient de transmettre, de mémoriser, et mais aussi de faire varier ces récits, de les adapter à des situations concrètes, etc. Donc vous avez très clairement l'expérience qui précède le récit. Dans le cas de Don Quichotte, c'est l'inverse. C'est le récit, le roman de chevalerie, comme une sorte de guide des conduites, qu'il veut imposer, il veut tordre le cou au réel, d'une certaine manière, pour lui imposer son schéma de roman de chevalerie. Un autre exemple, quelques siècles plus tard, c'est celui de Flaubert avec Madame Bovary. Madame Bovary, c'est la même chose. Elle a lu des romans sentimentaux, et elle essaie d'imposer ce schéma, cette grille de lecture à la vie réelle, aux rencontres réelles qu'elle fait, et elle essaie donc d'appliquer à la réalité. Alors là encore, on a le récit qui précède l'expérience, qui loin de l'éclairer, comme dans le récit traditionnel, loin de l'explorer dans ses contradictions, dans ses ambiguïtés, dans ses trous noirs, essaie au contraire de dicter à cette expérience un système de signes, de conduite. Donc si vous voulez, ce qui est très important de comprendre dans le storytelling, c'est que loin d'éclairer l'expérience, le storytelling cherche à guider cette expérience, cherche à l'influencer, cherche à la dicter, ce que Foucault appelait la conduite des conduites. Donc, et là, si on prend cette grille d'analyse, on va comprendre pourquoi et quelle est la fonction de ce storytelling dans le management, dans le marketing, dans la communication politique. Alors, quand est-ce que ces techniques se développent et pourquoi ? Moi, je dirais que c'est au début des années 90 qu'apparaissent aux États-Unis un certain nombre, parce que j'insiste bien là-dessus, il ne s'agit pas de mon interprétation, il s'agit de toutes les pratiques dont je vais vous parler ce soir, sont des pratiques qui se revendiquent elles-mêmes du storytelling, et du mot storytelling. Hein. C'est pas moi qui ai dit, tiens, regardez, là, c'est du storytelling, là, c'est aussi du storytelling. Non, ce sont des théoriciens ou des praticiens qui se revendiquent du storytelling comme un art, l'instrumentalisation de l'art du récit à des fins, on va voir, de différentes tâches, à des fins de coordination dans l'entreprise, d'identification de ce qu'on appelait avant la culture d'entreprise, de structuration des messages, de transmission des informations et de classement de ces informations, mais aussi dans la publicité, dans le marketing, le récit est utilisé afin de vous convaincre d'acheter tel ou tel produit, telle ou telle marque, ou bien dans la politique, de voter pour tel ou tel candidat. Alors, comment ça apparaît et pourquoi ça apparaît dans l'entreprise d'abord sous forme de discours du management? Il faut auparavant que je rappelle, mais je n'insisterai pas trop là-dessus, mais s'il y a des étudiants, s'il y a des gens qui étudient ce phénomène, il faut rappeler que dans les années 60-70 aux États-Unis, dans les universités, il y a ce qu'on appelle le narrative turn, c'est-à-dire un tournant narratif qui fait qu'un certain nombre de sciences commencent à se penser, et les sciences parfois très positivistes, hein, comme très, très mathématiques même, qui commencent à se penser comme des sciences narratives. Ainsi, l'économie se conçoit comme une science narrative, le droit, etc., etc. Et dans les universités, il y a cette évolution vers un paradigme narratif qui gagne peu à peu toutes les disciplines. Et donc, qui atteint aussi le domaine des sciences de l'organisation. Et c'est là que la jonction avec le réel, la jonction avec des pratiques en entreprise va se faire. Alors en gros, comment expliquer ce recours au récit dans les entreprises pour faire du management, c'est un peu long à expliquer, je le développe dans la première partie du livre. Disons que, pour aller vite, l'explication, c'est au fond la crise du Fordisme. Parce que, qu'est-ce que le Fordisme, sinon... on a beaucoup parlé du Fordisme, auparavant du Taylorisme, dans son aspect contraignant, dans son aspect aliénant, le travail fragmenté, le travail à la chaîne, etc. Mais on n'en a pas parlé comme dans le sens où ce Fordisme était aussi une manière de structurer la vie au travail. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez, en gros, le Fordisme, c'est la concentration dans une même unité de travail, de force de travail très nombreuses, avec une production en série, mais aussi ce qu'on appelait, ce qui avait un sens sous la dénomination de carrière, la possibilité pour ceux qui entraient dans l'entreprise d'imaginer leur vie au travail dans la durée, sur des longues durées. La crise du Fordisme, avec l'apparition d'un nouveau paradigme d'entreprise, qui est l'entreprise décentralisée, délocalisée, obéissant à des idéotypes comme la fluidité, la flexibilité, on pourrait essayer de démonter un peu structuration dans la longue durée de la vie au travail. En gros, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on prend la vie des marchandises, hein, avant, quand vous étiez chez Ford, votre travail, c'était de produire la Ford, qui avait une très grande présence et une très grande réalité. Quand vous appartenez à une entreprise qui fabrique toutes sortes de produits différents, parfois pris dans des secteurs d'activité complètement différents, vous n'êtes plus producteur d'une marchandise. Vous appartenez à une unité un peu abstraite qui est parfois fragmentée dans l'espace, parfois délocalisée donc à travers plusieurs pays. Et donc il y a un problème de reconnaissance. Comment vous vous identifiez à l'entreprise à laquelle vous travaillez? Comment vous vous inscrivez dans le temps? Comment vous inscrivez votre vie au travail alors qu'on vous explique sans arrêt que il n'y a plus de carrière, que dans une vie on fait plusieurs travails, on a plusieurs professions et que c'est très bien? Vous voyez, l'inconvénient de cette idéologie du changement perpétuel, c'est qu'évidemment les gens ont tendance à s'en défendre en se désinvestissant de la vie de l'entreprise ou en ayant du mal à s'identifier à elle, à même à identifier ce qui fait l'essentiel de son activité. Donc on a ce qui apparaît dans des gens comme Boltanski. Luc Boltanski, on l'a perçu assez vite dans les années 80 sous la forme d'une crise de motivation chez les cadres, d'abord chez les cadres, hein. Mais qui se répand un peu à l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Et donc on a une sorte de démotivation de désidentification et de décorporation, même de désincorporation de l'unité de l'entreprise. Le storytelling va être la réponse à cette crise du fordisme, et il va essayer d'adapter la force de travail à ce nouveau paradigme, je répète, d'entreprise décentralisée, marquée par la flexibilité, l'absence de contrat de travail, etc. C'est-à-dire, en gros, ça signifie quoi? Ça signifie que le fordisme, on pourrait dire, c'était un récit, un grand récit de la vie au travail. Ce récit étant complètement éclaté, détruit, eh bien le management invente un récit artificiel qui va essayer de structurer, de rattacher les salariés à leur entreprise par la médiation de ce récit artificiel. Un exemple, c'est un gourou du storytelling management qui s'appelle Steve Denning, qui travaille à la Banque mondiale à la fin des années 80. C'est à la Banque mondiale, en fait, que ce discours du storytelling management a commencé à émerger. Et Steve Denning dit, pourquoi on a inventé le storytelling management? Parce que plus rien d'autre ne marchait. Banque mondiale, d'une certaine manière, c'est le paradigme, hein, parce que, d'une part, à la fin des années 80, elle est contestée comme le Fonds monétaire international, pour que sa politique n'est pas à l'égard des pays pauvres, n'est pas sans critique. Par ailleurs, c'est une organisation transnationale. Les gens qui y travaillent ont du mal à identifier aussi à quoi ça sert, la Banque mondiale. Par ailleurs, c'est une période où la Banque mondiale, justement, critiquée par les altermondialistes, à cause de sa politique à l'égard des pays pauvres, cherche une nouvelle identité. Donc c'est un bon exemple d'un bon modèle de ce qui se passe dans l'ensemble de l'économie capitaliste, c'est-à-dire qu'on a une entreprise qui essaie de se repenser, de s'identifier vis-à-vis de l'extérieur et à l'intérieur d'une manière différente, et c'est l'idée, ben, nous, Banque mondiale, nous ne sommes pas seulement une banque de crédit, nous sommes aussi un lieu d'échange des savoirs. Nous devons favoriser les transferts de technologies de pays riches à pays pauvres, etc., etc. Donc ce Steve Denning dont je vous parle est chargé d'amorcer ce changement de conception et d'identité de la Banque mondiale, et il essaie d'abord de le faire avec des outils traditionnels du management, c'est-à-dire, à l'époque c'est la vogue du knowledge management, c'est-à-dire le management des connaissances, des savoirs. On commence à dire, vous savez, c'est toute la rhétorique sur l'économie de l'information, qu'il y a de plus important, de plus précieux dans une entreprise, c'est les flux d'informations, etc. Et donc il essaie d'expliquer ça aux salariés de la Banque mondiale avec des moyens traditionnels, exposition, PowerPoint, etc. C'est-à-dire en gros un langage rationnel. Et il le dit d'ailleurs, il dit, moi je viens j'ai une formation plutôt scientifique, j'ai un esprit plutôt rationnel, et donc j'essaie de communiquer rationnellement. Et il se rend compte qu'il se heurte à des difficultés considérables, les gens ne comprennent pas, ça ne les intéresse pas, et ils ne sont pas motivés. Jusqu'au jour où un de ses collaborateurs, je le fais avec ironie, parce que c'est vraiment toute la rhétorique du storytelling management, ils sont à la cafétéria, il y a un collaborateur qui mange un sandwich avec lui, qui partage un sandwich avec lui, et qui lui raconte une histoire qui lui est arrivée en Zambie. Il rentre d'un voyage d'Afrique, et là il a appris qu'une infirmière, dans une zone très retirée, même pas la capitale de Zambie, avait pu se connecter sur le site internet d'un hôpital texan et découvrir le remède de la malaria à travers cette connexion, et donc trouver le moyen de soigner les nombreux malades atteints de malaria dans son coin retiré de Zambie. Alors ce type raconte ça en disant, tiens, tu vois, c'est vraiment à ça que devrait servir la Banque mondiale. Et Steve Denning dit, ouais, c'est une histoire magnifique, sauf que la Banque mondiale n'est pas dans la photo. Et il trouve que cette petite histoire, ça pourrait être une bonne anecdote pour faire comprendre aux gens de la Banque mondiale, aux cadres dirigeants, les nouvelles missions de la Banque mondiale. Et, alors là, c'est lui qui raconte, hein, parce qu'il a évidemment fait le storytelling du storytelling. Cette histoire zambienne que je vous raconte là, en quelques mots, est devenue un must dans tous les festivals, dans toutes les rencontres de storytelling management. dans le sens où, la racontant à quelques collaborateurs, ces collaborateurs la racontent à d'autres, et le miracle formidable se produit, la Banque mondiale a trouvé un nouveau projet grâce au storytelling, tout le monde adhère spontanément, comprend l'intérêt de cette histoire, et de là vient aussi l'un des arguments des théoriciens du storytelling management, c'est que les stories sont comme des virus. C'est-à-dire lorsque vous introduisez une story dans l'entreprise, elle se répand de manière virale, ils le disent aussi de manière très sommaire. Si on vous raconte une bonne histoire, eh bien vous avez envie de la raconter à votre collègue à votre tour. Et ainsi tout le monde, dans le storytelling, tout le monde devient le narrateur et pas seulement le récepteur de la bonne histoire. Bref, voilà, en quelques mots, je pourrais développer, mais par exemple, ce qui est important de savoir, c'est que le storytelling management s'applique à des domaines très différents. Là, il s'agit plutôt, à travers l'exemple de Steve Denning, de l'identification d'un changement de paradigme dans l'entreprise. Mais ça peut être un déménagement, ça peut être une délocalisation, ça peut être un licenciement. Quoi de plus merveilleux que d'expliquer à des gens que vous licenciez que la vie n'est que changement et qu'il faut se tenir toujours prêt à sauter d'une situation à une autre, enfin toute cette idéologie du changement comme catégorie positive, hein. Mais c'est aussi utile, le storytelling est aussi utilisé pour coordonner des activités, et là il faudrait que, mais je ne le ferai pas ce soir, il faudrait parler un petit peu des techniques de récit assistées par ordinateur, où là on est véritablement dans une sorte de collecte des récits dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on donne l'illusion aux gens qu'ils vont pouvoir parler de ce qu'ils ressentent dans le travail, etc. Comment ces anecdotes, ces expériences au travail sont enregistrées, décryptées, compactées, introduit dans les logiciels pour élaborer une sorte de guide de conduite qui revient vers les salariés sous la forme donc d'une sorte de vade-mecum du travail dans l'entreprise, comment on doit se comporter, etc. Donc là, on est vraiment dans ce que Foucault appelle la conduite des conduites. L'autre exemple dont je voudrais vous parler, c'est l'exemple du marketing, parce qu'évidemment, si la communication interne dans les entreprises fait appel de plus en plus au storytelling, là, ça rejaillit assez vite dans la communication externe et dans le marketing. Il y a à cela plusieurs raisons qui s'ajoutent à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la crise du Fordisme, c'est qu'à cette crise du Fordisme s'ajoute aussi une crise de la publicité qui est liée à l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'explosion d'Internet, le fait que la télévision n'est plus le vecteur principal du message publicitaire. Ça passe par, là aussi je vais très vite, hein, je le raconte en détail dans le livre, ça passe par une crise de la publicité, une crise des marques. Crise des marques qui peut aussi s'expliquer par la lutte assez féroce que leur livre les militants altermondialistes pendant les années 90. Je fais allusion là au mouvement de réappropriation de l'espace public, comme Reclaim the Street. Vous vous souvenez sans doute, je prends toujours cet exemple parce qu'en général on s'en souvient, en 98 au moment du mondial de football, les images de Nike d'enfants cousant les ballons de football sur lesquels était inscrit le logo de Nike ont circulé partout dans le monde. Les reportages sur les sweatshops, c'est-à-dire ce qu'on appelle littéralement les ateliers de la sueur, c'est-à-dire les sous-traitants de Nike, évidemment à la périphérie, là où il n'y a pas de droit du travail, il n'y a pas de contrôle, où des gens sont sous-payés. Le fondateur de Nike reconnaîtra à la fin des années 90, la marque Nike était devenue synonyme d'asservissement et d'exploitation au travail. Donc là, il y a une première crise des marques, ça concerne Nike, ça concerne Apple, Microsoft, toutes les grandes marques. Il y a aussi des raisons, c'est que, si vous avez lu le livre de best-seller de Naomi Klein, Nos Logos, elle explique très bien tout ça, comment dans les années 80, la marque est devenue est apparu en tout cas pendant une dizaine d'années comme une telle solution à la dématérialisation, c'est-à-dire que de la production et de la vente, c'est-à-dire que vous n'achetiez plus déjà une marchandise, mais vous achetez une marque. Hein. C'est assez courant. Mais en même temps, à force de marteler une marque, se sont rendus compte des publicitaires, elle perd de son magnétisme, elle perd de son rayonnement. Et donc, les publicitaires constatent qu'il ne suffit plus d'avoir un logo aussi éblouissant que le Switch, le Switch et le logo de Nike. Au point que tout au long des années 90, on a une sorte de crise des marques et un travail de réflexion sur comment faire pour remagnétiser les marques, comment faire pour les réidentifier, pour que le public, lui aussi qui est surchargé de messages publicitaires, les différencie. Et surtout qu'il crée une relation de loyauté, disent les marketeurs, avec la marque. Eh bien, c'est le storytelling qui va être la réponse. C'est-à-dire que ceux qui ont fait ça, je raconte en détail de manière la plus systématique, c'est Nike. Parce que Nike, confronté aux campagnes des altermondialistes, il y a eu d'autres campagnes, et je vous cite ça parce que c'est assez drôle, il y a eu aussi une campagne menée par des artistes italiens qui ont, un matin, ont débarqué sur la place principale de Vienne, avec une ribambelle d'hôtesses tout habillées, toutes vêtues de Nike, distribuant des prospectus et annonçant que Nike avait acheté la place principale de Vienne et qu'ils allaient ériger un énorme switch de je ne sais plus combien de dizaines de mètres de long pour s'approprier et donc distribuant des tracts. Et les gens croyaient que Nike avait véritablement acheté la place, et d'ailleurs on racontait que c'est pas seulement la place principale de Vienne, mais à Milan, à Paris, à Rome, Nike achetait les places principales de toutes les villes. Au point que Nike a vu le danger de faire un procès à ces jeunes artistes, et donc vous voyez le eux-mêmes se sont emparés du procès en disant on croyait que Nike c'était une marque sportive, des jeunes gens en basket, mais en fait on s'est retrouvé face à des avocats ennuyeux. Et donc il y a eu ce Nike à un moment donné est loin d'être une marque qui a incarné la jeunesse, l'innovation, la modernité, est un peu obligé de se replier, est un peu sur la défensive, attaqué sur les sweatshops, le travail des enfants, l'occupation de l'espace public par les marques, etc. Et c'est là où quand même cette économie capitaliste est assez géniale d'une certaine manière, c'est que ils ont décidé de reprendre les choses en main, et c'est un bon exemple de la manière dont le storytelling a changé la notion de la marque. Qu'a fait le chef Nike, le patron de Nike, mais il a fait deux choses. Première chose, il a embauché la directrice du Bureau international du travail chargée de contrôler l'exploitation du travail des enfants. Et il l'a chargée d'adopter une sorte de procédure à imposer aux sous-traitants de manière à garantir le fait qu'on ne puisse plus voir des enfants travailler dans des conditions infamantes pour la marque Nike. La deuxième chose, la plus intéressante, c'est que un des universitaires les plus intéressants quand on parle de storytelling s'appelle David Boach. C'est un type qui travaille à l'Université de Californie du Sud. Depuis, c'est l'un des premiers à avoir compris et vu l'intérêt du storytelling dans l'entreprise. Mais il est assez paradoxal, assez complexe, parce qu'il est à la fois critique du storytelling et l'un des théoriciens du storytelling. Il se réfère aussi bien à des sémiologues russes comme théoriciens du roman, comme Mikhail Bakhtin, que à Guy Debord, de la Société du spectacle, mais aussi à ces théoriciens du management. Alors David Boach, lui, comment il s'est référé? Il a fait une première, au départ c'est vraiment un théoricien du management. Il a fait une enquête à la fin des années 80 dans une entreprise de matériel de bureau. Et il s'est rendu compte, c'est le premier à se rendre compte à quel point, donc là je parle de 88-89, que de nombreux récits circulaient dans l'entreprise. Ce qu'on sait plus ou moins quand on a un peu travaillé dans des entreprises, mais lui s'en est rendu compte de manière systématique et il a montré qu'au fond, les dirigeants croient qu'ils imposent à travers des procédures, des contrôles, ils ont une influence déterminante sur les relations sociales dans l'entreprise, mais que c'est plus compliqué que ça, et qu'au fond, l'entreprise est une organisation narrative qui est traversée par des récits qui s'opposent, qui se télescopent, qui dialoguent parfois entre eux. Il y a les récits de la direction, il y a les récits des syndicats. Donc c'est le premier à poser cette notion d'une entreprise analysée comme une sorte de chambre d'écho des récits que les uns et les autres tissent dans leur rapport à leur travail. David Bode joue un rôle très important dans les années 90, justement, pour appliquer cette conception du storytelling organisationnel à la critique des marques. Il est à l'avant-garde, il conseille, bon, avec ses étudiants qui sont altermondialistes, il conseille, et il dit au fond, pendant toute la campagne contre le travail des enfants, sur les sweatshops, il a une analyse très intéressante, qui est de dire, mais au fond, pourquoi le switch, l'ont dit les analystes de Wall Street, le switch s'est déchoussé. C'est-à-dire, il a perdu son rayonnement, y compris pour les gens de Wall Street. Et lui, il dit parce qu'il n'avait rien à raconter. Le switch, ça ne raconte rien. C'est une image qui essaie de vous sidérer, c'est un logo éblouissant, étourdissant, mais ça ne raconte rien. Et quand vous n'avez rien à raconter, dit David Bode, eh bien, ce sont les autres qui racontent des choses sur vous. Hein? Et donc le récit des altermondialistes s'est imposé parce que derrière le switch qui devenait un petit peu transparent sous les coups de butoir de la contestation altermondialiste, eh bien derrière le switch apparaissent ce que j'ai dit tout à l'heure, ces jeunes enfants qui travaillent sur les ballons du mondial, ces femmes haïtiennes qui nourrissent leurs enfants avec de l'eau sucrée tellement elles sont épuisées, l'encadrement quasi certains de ces sous-chops dans les pays d'Asie du Sud-Est ressemblait à des camps de concentration, les femmes étaient encerclées, dormaient au-dessus des ateliers, enfin, etc. Donc ce sont ces sales récits qui deviennent synonymes de la marque. Alors Friedman comprend tout le parti qu'il y a à tirer, c'est la deuxième chose qu'il décide de faire à la fin des années 90, il commande un rapport à David Bode. Et David Bode accepte, bizarrement, de faire ce rapport, et il dit donc que si vous voulez sauver la marque Nike, il faut la reconstruire. Et là, il emprunte un concept, le concept de reconstruction narrative de l'identité à Paul Ricoeur, hein, qui est un peu le philosophe de cette notion de construction, c'est-à-dire que l'identité se construit à partir d'un récit. Eh bien, il l'applique à la marque en disant, mais il faut que Nike reconstruise son identité de manière narrative. Et là, il y a non seulement le fait de devenir le bon élève de la classe en ce qui concerne le travail des enfants, les conditions de travail, etc. Mais il y a également toute cette tentative, ces liens avec la banlieue, avec l'esthétique des Noirs américains, le mode de vie, le rap, etc. Le basket. Et donc c'est sur cette base-là que Nike redémarre. Mais il y a d'autres exemples comme ça de reconstruction narrative. Je cite souvent le cas d'un marketeur qui a créé une agence à Amsterdam qui s'appelle Narrativity, cette agence propose à ses clients de procéder à des reconstructions narratives de leur identité. Il en cite, alors c'est très marrant parce qu'il a écrit un article assez systématique là-dessus, dont le titre est en fait un verset de Roméo et Juliette. Vous vous souvenez, dans la pièce de Shakespeare, Juliette, à un moment donné, s'interroge dans son désarroi, même désespoir, d'être séparée de Roméo à cause de son nom, c'est de famille. Hein. Elle dit, mais qui a-t-il donc dans un nom? What is in name? Et ce type donne comme titre à son article sur la reconstruction narrative des marques, ce verset de Juliette, qu'est-ce qu'il y a dans un nom? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans une marque? Et vous voyez déjà la réponse, dans une marque, il y a des récits. Parce qu'on peut analyser Roméo et Juliette, bon, c'est pas tellement le nom qui est un obstacle à l'amour de Roméo et Juliette, mais c'est surtout les récits antérieurs, le conflit familial entre les deux dynasties ou familles, etc. Donc, cette agence narrativité, dans cet article, il cite plusieurs exemples. Le premier, c'est le plus drôle, c'est la marque Chivas, le whisky Chivas, qui était considéré dans les années 90 un peu comme un whisky démodé, une marque démodée. Le Chivas, c'était le whisky que buvaient vos grands-parents, ça évoque les films des années 50, américains, etc. Mais en gros, plus personne, les jeunes ne buvaient plus de Chivas, etc. Et donc, les marketeurs narratifs conseillent à Chivas de se reconstruire en revenant. Et là, c'est presque de la psychanalyse des marques, c'est-à-dire que ça, c'est assez frappant. Plus les humains, les êtres humains sont considérés comme des marchandises, les marques, elles, acquièrent une sorte de subjectivité, de recherche de leur identité. Et donc, c'est presque la quête du récit des origines. Hein. C'est-à-dire que Chivas est en crise, a perdu vent, parce qu'au fond, elle a perdu le récit de ses origines. Et donc, il demande très concrètement à un journaliste d'écrire l'histoire de la marque Chivas. Depuis l'octroi du label royal, je ne sais plus à quel siècle, le 17e, en passant par l'importation du Chivas aux États-Unis dans les années 50, sur fond de chansons de Frank Sinatra et de musique de rock'n'roll, etc. Et le journaliste donc écrit l'histoire de Chivas. Chivas change son nom, la marque devient la Chivas Légende. Ils embauchent les storytellers qui vont se répandre dans les pubs et raconter l'histoire de Chivas Légende. Et dit-on, la marque redémarre de cette manière-là. Un autre exemple, c'est les jeans Levi's. Ça, c'est beaucoup plus proche de nous. Vous avez sans doute vu dans des boutiques Levi's, derrière la caisse, il y a un petit panneau qui dit Levi's, la marque des pionniers, quelque chose comme ça. Eh bien, ça correspond à une analyse qui a été faite, là encore, de reconstruction du récit des origines. C'est-à-dire que Levi's était devenu un vêtement un peu bobo, vendu assez cher dans des boutiques, et donc ils se sont rendus compte qu'ils perdaient quand même tout un marché, qui était le marché de gens plus modestes. L'analyste de la marque s'est interrogé suivant le modèle suivant. Il s'est dit, mais au fond, quel est l'origine de Lévi-Strauss. Au départ, Lévi-Strauss, c'est une marque, c'est un vêtement de travail, donc une toile très résistante, et le jeans arrivait des chercheurs d'or qui devaient résister au climat, à l'eau, etc. Et au fond, Lévis en arrive à se dire, on a perdu le working class hero, c'est-à-dire le héros de la marque, c'est l'ouvrier. On a perdu le rapport avec l'ouvrier. Et donc, ils vont créer, d'une part, une nouvelle marque distribuée dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, non plus dans les boutiques, qui va s'appeler le Lévi-Strauss Signature. Vous avez ces publicités que vous avez certainement vues au cinéma, qui se multiplient, où on voit un jeune homme, qui est un chercheur d'or ou un mineur, qui revient dans une cabane en bois, tout vêtu de Levi's. Une jeune femme lui ouvre la porte, elle aussi est vêtue tout entière de Levi's et sur plusieurs couches, ils se tombent les bras dans les bras l'un de l'autre, etc. Et tout de suite viennent se superposer des jeunes gens d'aujourd'hui qui font la même chose. Voilà. Donc ça, c'est une manière subliminale de rappeler l'origine de la marque Levi's. Mais il y a énormément d'exemples de l'utilisation, et vous verrez que si vous commencez à penser avec ce filtre-là, vous allez trouver les signes de plus en plus fréquemment de marques qui se déclinent. La dernière en date, c'est Paris Match, qui était le slogan de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, et vous avez sûrement vu la nouvelle marque, c'est quoi? Personne ne sait. Le nouveau slogan de Paris Match, la vie est une histoire vraie. Voilà. Et je pourrais citer aussi la publicité de Fiat, où vous avez moi je me suis fait piéger, donc je peux le raconter. C'est un bon titre d'images en noir et blanc qui fait se succéder les images des années 50, 60, 70. On voit les Beatles, on voit De Gaulle, Kennedy, etc. Et on voit ça, il n'y a aucune accroche publicitaire. On se dit, tiens, c'est la bande-annonce d'un film, c'est la bande-annonce d'une émission de télévision, une rétrospective. Et puis simplement à la fin, il y a un panneau, Fiat, c'est votre histoire. Voilà. Et donc, alors, on pourrait dire aussi que ça, c'est très important, c'est votre histoire. C'est-à-dire que pour fidéliser le consommateur et créer une relation émotionnelle avec le consommateur, eh bien, c'est une sorte de storytelling qui fonctionne comme une agrafe. Une agrafe, une histoire, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, de l'entreprise, fantasmée, etc., l'histoire supposée ou réelle du consommateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de marier l'histoire individuelle du consommateur et celle de la marque. C'est très frappant quand vous voyez toutes les légendes qui se sont développées autour de la Silicon Valley, autour de l'aventure de Steve Jobs, par exemple, à propos de Apple. Il y a toujours une origine dans un garage, on bidouille un ordinateur, puis ça devient un Macintosh formidable. Il y a toujours des légendes comme ça. Par exemple, chez Apple, quand vous êtes embauché, on commence par vous raconter l'histoire du héros de Steve Jobs, donc comment il a créé son entreprise, comment il en a été exclu, comment il a été réintégré ensuite, etc., etc. Donc l'intérêt de la chose, c'est de voir qu'à travers l'histoire d'une marque et non plus seulement son logo, eh bien, vous créez une sorte de scénario de vie qui peut vous permettre de vous associer à cette marque de manière durable. Mais qui permet aussi à des entreprises qui ont perdu toute unité dans le sens non seulement du lieu de production, mais également des produits qui sont vendus. Hein. Vous avez des pétroliers aujourd'hui qui gèrent les supermarchés, et il y a des stations-service dans les supermarchés. Enfin, je veux dire que plus aucune marque n'est liée à un produit. La diversification, le changement constant des emballages, vous n'avez plus d'unité du point de vue de la marchandise, ce qui fait que le consommateur, disent les marketeurs, n'achète plus une marchandise, mais l'histoire que la marque raconte. Voilà. Et ça va au point, ça concerne également, si vous regardez par exemple Habitat, je crois que le catalogue d'Habitat cette saison parlait dans ces termes-là, ils ne vous vendent pas des meubles, ils construisent avec vous votre histoire dans un décor. Hein. En gros, le marketing vous dit la chose suivante, vous êtes un héros, choisissez votre personnage et nous on fournit les accessoires. Ce qui fait que les lieux même de vente, les grandes surfaces se transforment de plus en plus en des sortes de parcs à thème où on vit, on va vivre dans les grandes surfaces et non plus seulement acheter. Il y a des théâtres, il y a des cinémas, il y a des restaurants, et exactement comme à Euro Disney, on emprunte des rôles et on conçoit la consommation non plus comme une acquisition d'un bien, mais comme le partage d'une expérience. Vous voyez que ça va quand même assez loin. C'est ce qu'on appelle le marketing expérientiel qui se développe maintenant systématiquement. Alors je voudrais en venir maintenant au troisième volet, qui est la politique, mais avant de passer à la politique, on a parlé donc de la crise du Fordisme, dans les facteurs qui expliquent l'émergence du storytelling, la crise du Fordisme pour les entreprises, l'explosion de l'Internet, parce qu'évidemment, c'est une chose aussi sur laquelle je suis passé trop rapidement, mais vous savez qu'avec l'explosion d'Internet, on est soumis à une abondance de messages de plus en plus grande, ce que les experts de la transmission et de la visualisation des informations appellent le harcèlement textuel. Et donc le problème aujourd'hui, c'est de formater les messages de manière à ce qu'ils se transmettent et qu'ils soient plus riches en informations, parce que sinon on atteint un seuil de saturation. Eh bien, ce qu'il faut savoir, ça s'appelle la visualisation de l'information. En gros, c'est le packaging. Comment on fait pour transmettre des ordres extrêmement sophistiqués dans l'armée américaine, ou comment on transmet des informations d'une agence à une autre, si on ne veut plus le faire sous forme de liste, sous forme de tableau, sous des formes traditionnelles, parce qu'il y en a trop, on les lit plus, on peut pas les... Eh bien, on le fait sous la forme de récits, et de récits multisensoriels. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui quelqu'un, un chercheur américain qui s'appelle Gershom Naum, qui travaille chez Meat Corporation, qui est une boîte qui travaille non seulement pour le Pentagone, mais aussi pour le privé, et dont la spécialité, c'est d'utiliser le storytelling pour le packaging des informations, la visualisation des informations. Évidemment, par ordinateur, etc. Mais il le fait en déjà anticipant sur les avancées technologiques, puisqu'il travaille de manière à associer plusieurs modes de réception sensorielle. C'est-à-dire pas seulement la lecture, mais aussi l'audition, etc., etc. Donc ça, je passe vite parce que c'est un peu complexe à expliquer, mais la révolution des technologies de l'information, l'explosion d'Internet, c'est un des facteurs très importants qui explique pourquoi ça s'est passé en milieu des années 90 et pas avant. Sans Internet, et là vous voyez aussi que on n'est pas dans une simple technique de manipulation, ni même un vecteur de transmission d'informations, mais qu'on est dans un dispositif. C'est-à-dire que, on va le voir très bien avec la politique, hein, et j'en donne juste l'exemple, que si vous prenez depuis 6 mois toutes les affaires qui ont perturbé la communication du nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, elles sont toutes passées par Internet, par des buzz sur Internet, qu'elles soient petits cons, toutes ces choses un peu de la communication non officielle, ont joué sur les sondages d'opinion par le biais d'Internet et de la transmission virale. Sans Internet, vous n'avez pas ça. Donc d'une certaine manière, les hommes politiques, les journalistes, les médias, la médiasphère en général, ne sont pas ils ne faut plus les concevoir comme des gens qui nous manipulent, ils sont eux-mêmes manipulés, ils sont pris dans ce dispositif, et lorsque vous discutez avec des hommes politiques de droite comme de gauche, ils vous disent, mais si on n'utilise pas ces méthodes-là, ben, on ne peut plus être entendu aujourd'hui. Donc, je répète, crise du Fordisme, explosion d'Internet. Il y a également des éléments plus idéologico-politiques qui est la révolution conservatrice qui transforme littéralement de fond en comble le capitalisme. Je fais allusion à Reagan et Thatcher avec la financiarisation de l'économie. Là aussi, c'est un des éléments du storytelling très important puisque vous avez des entreprises qui ne sont plus jugés, évalués par leur productivité, par leur inventivité technologique, les produits qu'elles inventent, qu'elles fabriquent, etc., mais simplement par leur cotation en bourse. Ça va favoriser des phénomènes comme Enron aux États-Unis et la création de ce que moi j'appelle des entreprises de fiction. C'est-à-dire des entreprises qui ne valent que par les fictions qu'elles racontent. L'intoxication des analystes de Wall Street par Enron en est l'exemple le plus frappant. C'était une entreprise complètement construite sur des pieds d'argile, en fait, qui étaient des fictions, qui persuadaient un très beau film, malheureusement en anglais, qui raconte l'effondrement d'Enron, The Smartest Guy in the Room. C'est deux réalisateurs américains qui ont fait ce documentaire, qui montre ça très bien. C'est-à-dire que la limite, ce qui est important, c'est que les analystes de Wall Street pensent que vous êtes une entreprise innovante, à l'avant-garde. Enron a été classé 6 années de suite comme l'entreprise la plus innovante par le magazine Fortune, alors que c'était vraiment du pipeau, les inventions technologiques. Le film le raconte en détail. Donc on a là une sorte de... Mais quand vous voyez le cas, pour prendre un tout autre exemple de Jérôme Kerviel avec la Société Générale, qu'est-ce que c'est sinon des individus qui à un moment donné perdent pied et se considèrent comme des héros d'une fiction, hein. D'ailleurs c'était très frappant parce que ça fonctionne en miroir. Le PDG de la Société Générale, lorsque l'affaire a été découverte, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, c'est une histoire extraordinaire. Ce garçon a déjoué tous les systèmes de contrôle interne. C'est un héros de fiction. Derrière ça, vous allez me dire, mais vous voyez du storytelling partout. Pas du tout. C'est pas moi qui vois du storytelling. Derrière ça, il y a un cabinet qui organise la communication de crise de la Société Générale. Et comment vous faites pour expliquer à des gens normalement constitués, qui sont censés être des experts financiers, qu'on ne prenne pas qu'on puisse perdre tant de millions d'euros au vu de tous les contrôles, sinon en créant une sorte de personnage extraordinaire qui déjoue tous les codes, qui est une sorte de génie de la... De l'embrouille financière, sinon ben, vous êtes obligé d'expliquer que en fait il a fait ça, mais c'est comme ça que ça marche, et que tant que ça marche on ne dit rien, et lorsque ça ne marche plus, à ce moment-là, bon, il y a crise. Donc l'idée d'une sorte de prestidigitation financière fait partie aussi de ce storytelling. Ça c'était un peu l'aspect financiarisation de l'économie lié aux révolutions conservatrices, mais lié aussi à la chute du mur de Berlin et à la fin du communisme comme alternative ou fausse ou pas, peu importe, hein. Mais ce qu'on a appelé la fin de l'histoire, la fin des idéologies, il est évident que lorsque les visions du monde ne sont pas structurées suivant des grands paradigmes, que ce soit ce que Jean-François Lyotard appelait les grands récits d'émancipation, eh bien ce qui se substitue aux grands récits d'émancipation, ce sont des petits récits d'adaptation. Et c'est exactement ça, le storytelling. Le storytelling ne vous donne pas une explication du monde, ne vous donne pas une vision du monde, il vous permet de vous adapter, et il essaie de vous lier à votre chaîne de télévision, à votre marque préférée, à l'homme politique pour lequel vous allez voter, à l'entreprise qui vous emploie, voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de tenir, hein, dans des rapports inter-individuels, les gens par des récits, des petits récits d'adaptation, puisqu'on n'a plus de grands récits d'émancipation. On va en avoir la démonstration avec la politique, parce que pourquoi, une question que je vous pose, pourquoi en même temps apparaissent nouvelles catégories d'hommes politiques qui s'appellent Bill Clinton, Tony Blair, Berlusconi, à quelques années près, Sarkozy maintenant en France, on est très en retard, des gens qui appliquent le storytelling politique de manière systématique. Ou j'ai oublié au passage Georges Bush. Sinon parce que la politique ne reposant plus sur des visions du monde, sur des programmes politiques visant à orienter, disons, la vie collective, suivant des rythmes, suivant un positionnement géopolitique même dans le monde par rapport aux différents ensembles, aux pays émergents, etc., eh bien, vous avez un discours politique qui se limite à capter l'attention, exactement comme le marketing, à organiser des audiences et des audimates, comme on l'a vu pour la présidentielle, où on dit, bon, mais il y a une repolitisation, pas du tout, c'est une repolitisation, alors la Star Academy, c'est une repolitisation. C'est simplement une galvanisation des audiences par un storytelling permanent, des fausses oppositions, la captation des émotions en instrumentalisant les victimes, comme on l'a vu à droite et à gauche, pendant la campagne, le rôle des handicapés, la scolarisation des handicapés, Nicolas Sarkozy qui invite 2000 victimes à l'Élysée, etc., etc. Alors, comment ça s'est passé, ce retournement politique, outre l'explication que je viens de donner, c'est-à-dire la fin des grands récits politiques? Je pense par exemple que le Parti communiste en France, on a beaucoup glosé sur son effacement et sa disparition, mais je pense qu'il ne peut pas survivre d'une certaine manière à l'extinction de ses visions du monde, parce que le Parti communiste est un parti idéologique. Et vous avez par contre des petits partis comme d'extrême gauche, comme Besancenot, dont je le dis d'autant plus aisément que j'ai fait un débat avec un idéologue de la Ligue communiste révolutionnaire, Norbert Ben Saïd, qui était d'accord avec moi là-dessus. Dans un portrait dans Le Monde, on disait que Besancenot, un de ses collaborateurs, disait que c'est bien avec Olivier dans les meetings, c'est qu'il raconte des histoires aux gens. Donc, c'est-à-dire que le storytelling, il est là aussi. C'est-à-dire que la question si vous êtes dans une compétition narrative pour capter l'attention d'un public, eh bien, vous êtes nécessairement conduit à raconter des histoires. Je vous en donne pour preuve Henri Guénaud, donc la plume de Nicolas Sarkozy, que j'ai rencontré aussi dans les coulisses d'une émission. Il m'a dit qu'il avait lu mon livre et il m'a dit c'est passionnant, mais vous savez, c'est pas du tout ma culture en fait. Moi, j'ai pas du tout une culture anglo-saxonne, mais j'étais sidéré parce que c'est exactement ce que je pense. Et c'est exactement ce que je fais. Il avait d'ailleurs déclaré dans une interview, la politique aujourd'hui, c'est raconter une histoire à propos de la nation. Et c'est ce que Nicolas Sarkozy a fait pendant toute la campagne. N'allez pas chercher. On nous dit, les journalistes vous disent, il a fait un diagnostic de la société française, etc., etc. Quand vous lisez les discours de campagne, vous avez une sorte de chapelet d'histoire. Quand il est en Bretagne, il chante le marin face au flot, courageux. Quand il est en Lorraine, il chante, je ne sais quoi, la région brisée, en Alsace, la résistance. À Marseille, c'est les fédérés qui montent à l'assaut, c'est-à-dire l'histoire de France racontée aux enfants, un peu comme à l'école primaire, avec les petites vignettes qu'on avait représentant des scènes clés. Et vous avez vu que là, en perte de vitesse dans les sondages, il est immédiatement revenu à un récit, et là j'ai reconnu mon ami Henri Guénaud, avec ce que j'appelle la cosmétique du poilu, aux Invalides, et le plateau, la résistance, bon, on cherche à toute force à se relier à l'histoire de France, ou à une certaine conception de l'histoire de France, mais qui est l'histoire de France de Love Story. Parce que parfois on objecte, mais enfin le général de Gaulle, il racontait une histoire, oui bien sûr, le général de Gaulle, pour lui la nation c'était une narration. Sauf que, quelle est la différence? On retrouve ce que je disais au début entre l'expérience, le récit. Quand le général de Gaulle conçoit, situe la France dans un axe géopolitique à égale distance des deux blocs, dans un dialogue privilégié avec les pays non alignés et le tiers-monde, et qu'il fonde ça sur une mission de la France, la résistance, la décolonisation, tout ça, ce sont des expériences réelles. Il est vraiment allé à Londres, même si la France n'a pas été résistante comme un seul homme, mais il y a eu une résistance qui a été organisée par le général de Gaulle. La décolonisation, il l'a faite. La Constitution, regardez, la Constitution de la Ve République, c'est quand même une architecture qui est en train d'être balayée d'ailleurs par Nicolas Sarkozy beaucoup plus efficacement que ne l'aurait fait Arnaud de Montebourg qui voulait une Sixième République. Parce que quand on réfléchit un petit peu à ce qui se passe actuellement, c'est l'architecture de la Ve République. L'exécutif et le législatif. L'exécutif divisé en deux, avec un président élu au suffrage universel, un premier ministre responsable devant l'Assemblée, deux assemblées qui se complètent, à l'intérieur de chaque assemblée, une majorité, une opposition, etc. À quoi ça sert, cette architecture? Sinon, à organiser la vie démocratique comme une délibération collective qui s'éloigne progressivement des variations d'opinion pour construire, et c'est pas seulement le général de Gaulle, c'est les pères fondateurs de la démocratie américaine, ce messier comme de la peste de l'opinion publique et de ses sauts d'humeur, et eux aussi, à travers toutes sortes de filtres, essayer d'organiser à la fois des institutions et une temporalité du débat public qui permettent de filtrer cette très grande variabilité d'opinion publique pour arriver à des décisions censées exprimer, après c'est à voir selon les cas comment ça se passe, mais censées exprimer l'intérêt général. Aujourd'hui, on est dans une sorte de spectacle, de scène médiatique, hein, où le but, ce n'est plus du tout d'élaborer des décisions de manière rationnelle et de manière démocratique, mais c'est de répondre à des attentes du public telles qu'elles sont sondées par les focus group, les sondages qualitatifs, etc. Donc on est dans une sorte d'interactivité démocratique, exactement comme les jeux interactifs à la télé, où on sent l'opinion, on lui répond, un fait divers surgit, il est mis en récit par les médias, le politique est sollicité immédiatement. Et donc toute cette architecture, toutes ces médiations politiques, ça ne sert à rien. Vous avez un homme face à un auditoire et qui doit réagir et qui est tout le temps exposé. Je dis souvent, Jacques Chirac a commis l'erreur de dissoudre l'Assemblée nationale, vous vous souvenez, avec Dominique de Villepin, mais Nicolas Sarkozy a fait mieux. En 6 mois, lui, il a dissous la politique. C'est-à-dire, il a dissous le poste de Premier ministre, il a substitué la question du temps est très importante aussi, de bien comprendre que la délibération a besoin de temps. Qu'est-ce que c'est que l'agenda parlementaire, les sessions, les vacances parlementaires, l'ordre du jour, tout ça, hein ? C'est la temporalité, c'est ce qui permet de résister à la pression des médias. Vous votez pas une loi en claquant des doigts, etc. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on substitue au débat parlementaire des commissions. Ces commissions, on leur donne une sorte de président qui est là pour ce qu'il représente médiatiquement. Le Conseil des ministres, est-ce que les ministres, j'ai frappé de lire ça dans plusieurs journaux ces jours-ci après les municipales, les ministres ne sont plus choisis pour leurs compétences. Ils sont choisis parce qu'ils sont vecteurs de notoriété. Vous avez le roi du tapage humanitaire, la représentante de la diversité, la blague du service, j'en suis désolé parce qu'elle est charmante, mais si on prend Rana Yadeh, elle a aussi peu de rapport avec l'Afrique que moi avec la Chine. Je veux dire que c'est la fille d'un diplomate, elle a toujours vécu à Paris, elle a fait des grandes écoles, elle a fait l'équivalent des concours de l'ENA, bon, donc elle est là comme symbole. Et quand vous voyez comment fonctionne la délibération, il ne s'agit pas d'une délibération, on est comme dans le loft, vous savez, quand on dit « avec Carla c'est du sérieux », c'est une parole de lofteur. Quand on dit « la France n'est pas un paillasson », alors qu'on reçoit Kadhafi, peu importe, il n'est peut-être pas bien de recevoir Kadhafi, mais si on le reçoit, on reçoit. Enfin, c'est-à-dire, on a une diplomatie quand même qui existe. Ben, on dit c'est du paillasson, paf, vous avez la une du point. Donc, si vous voulez, mais j'ai l'air de faire un peu de satire pour c'est plus agréable, mais c'est très sérieux en même temps. On est dans un univers performatif. C'est-à-dire que vous n'existez, si vous voulez maintenir votre présence au gouvernement, il faut qu'on parle de vous. Regardez les ministres qui sont critiqués actuellement. On dit, bon, il n'a pas terrible, on n'a pas entendu parler de lui, il n'a pas fait parler de lui, là. Il n'a pas habité la fonction. Habiter la fonction, c'est se mettre en fiction. Ce n'est pas occuper des prérogatives, occuper des pouvoirs, des attributions, etc. C'est jouer un rôle. Jouer un rôle dans le loft. Et comme vous le savez, dans le loft, où ce sont toujours les plus vulgaires qui sont remarqués, ça m'avait frappé quand il y a eu le succès du loft, comme des choses qui, dans la vie civilisée, paraissent très choquantes, quelqu'un qui, dans un dîner, se comporterait comme ça, ou irait traîner dans la piscine, ça serait très mal vu, hein, là c'est génial. Pourquoi ? Parce que c'est transgressif. Mais je voudrais attirer une chose, là, de votre attention sur une chose. Par exemple, j'ai évoqué Loana et Jean-Edouard dans la piscine. Non, non, mais c'est très sérieux, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai étudié Love Story sérieusement. En fait, on a l'impression qu'en fait, le loft, c'est un peu comme Foucault disait, le panoptique. Hein, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont pris sous des modalités de visibilité, qui sont filmés en permanence, 24 heures sur 24, même quand ils dorment, etc. C'est comme ça, mais pas seulement. Ce qu'on oublie de dire dans le jeu, c'est qu'il y a une armée de scénaristes dans les coulisses qui proposent des embryons de scénarios, des engrenages narratifs, à tel point que l'histoire qu'on a vécue en France comme exceptionnelle de, je répète, de Jean-Edouard et Loana dans la piscine, elle s'est reproduite à l'identique, elle s'est pas reproduite, parce que c'est passé avant, hein. Elle s'est produite à l'identique dans la série anglaise, dans la série espagnole, dans la série italienne. C'est-à-dire qu'on a, c'est ce que les managers du storytelling appellent des expériences tracées. J'ai oublié de vous dire ça, c'est le concept fondamental du storytelling management, tracer des expériences. On n'est pas Marcel Proust, qui analyse une expérience passée longuement, pendant des nuits, hein, et qui examine toutes les ambiguïtés de l'amour, de la jalousie, de rapport à la mer, qui plonge dans ce continent obscur, opaque, qu'est l'expérience humaine, et qui inlassablement l'analyse, en mesure les contradictions, etc. Donc là, c'est le contraire. On essaie de tracer les expériences, et on les trace de la manière la plus simple possible. Hein. C'est-à-dire, quand j'évoquais tout à l'heure le travail de compactage des récits dans une entreprise, on recueille les récits, on fait parler les gens, mais c'est exactement comme, si vous voulez, quand on taille une branche pour en faire une canne, c'est-à-dire tout ce qui, dans le récit littéraire, est important, les digressions, les variations, les répétitions, tout ça est coupé et mis honnête. Pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant, c'est la séquence narrative. Quand vous êtes dans le loft, le scénario du loft, ça doit être, chaque jour il y a un personnage qui doit surgir. C'est la story du jour. Cette story du jour doit mettre en opposition deux personnages ou trois personnages saillants, suivant des tensions narratives, t'es frappé de voir ça, quand vous lisez les entretiens de... j'ai un trou, pardon. Le cinéaste du suspense, Hitchcock, avec notre cher autre trou, François Truffaut, oui, considère cette manière de construire les séquences narratives comme démodée. On dit c'est trop simple, ça, on s'y attend. Hein. Là, dans le storytelling, vous êtes exactement dans ce genre de dispositif. C'est-à-dire, c'est le dispositif. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans des mécanismes de diffusion, dans des temporalités de diffusion extrêmement contraignantes. Il faut la story du jour, parce que c'est comme un feuilleton. Un feuilleton, il faut qu'il puisse être regardé indépendamment des autres. Et si vous le regardez pour la première fois, il faut qu'à la fin, vous ayez envie de connaître la suite. Donc, toutes ces techniques de construction de la tension narrative vous amènent à simplifier le contenu de l'expérience. Hein. Donc, bon, je me suis étendu un peu sur l'aspect loft politique. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps, de ma séquence narrative, si je peux continuer, si je dois m'arrêter, céder la parole aux questions. Je ne sais plus où est la personne. Ah oui. Il faudrait penser à ouvrir la discussion. Là, ben d'accord, on le fait tout de suite. Non, mais dans la discussion, je ajouterai, parce qu'il y a un élément, je n'ai pas assez expliqué pourquoi on en est là, comment ça s'est passé aux États-Unis, comment les storytellers sont arrivés, après Reagan, le Watergate, etc. Mais ouvrons la discussion, effectivement, ça sera plus intéressant.
Madame.
Il y a un micro, madame.
Bonjour. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit qu'ils faisaient des jeux de rôle. Alors je leur ai demandé ce que c'était, et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce monde qui invente des histoires. Alors, moi je suis militante communiste, hein. C'est d'abord en lisant Luma que j'ai su que vous aviez fait ce livre, voilà. Alors, je lis Luma, hein. Je n'ai pas la télévision, et je n'ai pas Internet. Alors, ce monde dans lequel vous me racontez, ça m'est étranger. Et quand les jeunes m'ont raconté l'histoire des jeux de rôle, mais je me dis, mais c'est pas étonnant qu'on ait voté Sarkozy qu'il n'y ait pas d'action qui se mène, mais c'est incroyable et c'est vachement dangereux. Moi, vraiment, j'ai époustouflé. Mais on va jamais s'en sortir. Mais je vous assure, ils passent leur temps, ces jeunes, à faire des costumes, à préparer je ne sais pas quel machin. C'est même pas un personnage. Ils choisissent un personnage, et puis ce personnage, il doit être en fonction de je ne sais pas quoi. Mais Alice, non.
C'est Second Life où vous faites référence sur Internet.
Non, des jeux de rôle.
Mais Second Life, c'est ça.
Je sais pas.
Ben vous choisissez un avatar, vous l'habillez, vous lui faites vivre.
Ils le font en vrai, puisqu'ils louent. Ils louent des cartons, ils louent je sais pas quoi.
Ah,
il y
oui.
en a une partie qui fait la cuisine.
Encore là, il y a du réel.
Alors moi, je me trouvais bête parce que j'étais éclaireuse et scout. Mais alors maintenant, mais c'est le bouquet. Ah non, franchement. Bon, alors moi, le discours de Sarkozy, je l'ai jamais vu à la télévision. Mais moi Sarkozy, mais je le rejette, c'est pas parce qu'il fait chez ma mère, c'est parce qu'il fait une politique pour les riches, c'est tout. Il y a quand même des gens qui sont sauvés. Et moi, j'espère être sauvée dans cette prise de... Je ne sais pas comment on peut dire. Comment est-ce qu'on peut dire cette chose que vous nous racontez, cette emprise de je ne sais pas quoi, comment c'est... Cette emprise de ces histoires, de ces... Mais c'est effroyable. Mais moi, je serais dans une... Ça ne marcherait pas, moi. Le management, ça ne marcherait pas. Je serais déjà à la porte. Hein. Voilà. Et je n'utilise absolument pas de marketing pour essayer d'affaires, je ne fais rien. Voilà.
Mais vous avez raison, madame. La question, vous voyez, c'est là, je fais allusion à la réception de mon livre par les médias. Le danger, c'est de dire... de faire de Sarkozy une sorte de maître qui aurait inventé tout ça. Il faut bien comprendre que c'est un dispositif qui s'impose à tous. Ce n'est pas Sarkozy le fait parce qu'il est conseillé par le Boston Consulting Group, parce qu'ils ont réfléchi beaucoup à la communication. Vous savez, il était à Alger, les journalistes impatients lui disent qu'à l'époque ça allait bien avec les journalistes et avec l'opinion, lui disent mais alors la semaine prochaine vous allez aller en Colombie pour aller chercher Ingrid. Et Sarkozy fait cette réponse extraordinaire, ce qui montre à quel point c'est très conscient. Écoutez, j'essaie de construire des séquences cohérentes. Et croyez-moi, c'est la chose la plus difficile à faire. Vous voyez, donc mais ils sont en même temps, de la même manière que Ségolène Royal, comme quand le livre est sorti, le Monde, Fotorino m'a demandé de parler de ça avec les journalistes, parce que ils ont pris conscience d'un coup qu'effectivement ils étaient victimes de ça, et qu'ils savaient plus comment prendre la distance, comment se comporter face à quelqu'un qui fait l'agenda, qui tous les jours vous donne, parce que quand vous êtes journaliste, vous devez raconter une histoire. Vous pensez que vous devez raconter une histoire. Mais quelle histoire? À quel niveau? Une histoire individuelle, une histoire collective? Bon. Les journalistes du Monde, on a passé un samedi à discuter de tout ça, étaient bien au courant. Et lorsque Ségolène Royal sort son livre « Ma plus belle histoire, c'est vous », le journaliste lui dit « Mais enfin, est-ce que c'est pas une conception un peu romanesque de la politique ?» Elle dit « Mais bien sûr, mais vous savez, l'expertise, c'est ce qui est le mieux partagé dans le monde, par contre, des gens qui savent raconter une histoire. » Et pour moi, la politique, c'est raconter une histoire dont les citoyens sont les acteurs. Voilà. Hein. Ségolène Royal, elle est conseillée par le groupe Ogilvy, qui est une filiale d'un groupe américain Ogilvy, dont la directrice a été appelée par Colin Powell, je le raconte dans la chronique du Monde que j'ai rédigée ce matin, que Colin Powell a embauché, donc PDG d'un groupe publicitaire de marketing, spécialiste du storytelling, est embauché un mois après le 11 septembre, au département d'État, non pas dans des fonctions de conseiller de communication, mais dans des fonctions diplomatiques. Elle est chargée des relations avec le tiers-monde. Et elle dit un certain nombre de choses absolument incroyables. Elle dit qu'il faut vendre l'Amérique comme une marque. Hein. Et la seule manière de vendre l'Amérique comme une marque, c'est d'élargir notre influence diplomatique au-delà des seuls gouvernements et des élites, à l'ensemble des individus qui sont prêts à entrer en relation avec nous. Et pour cela, Internet est capital, elle crée un site Internet, et ce site Internet raconte des histoires de musulmans qui sont très heureux aux États-Unis, comme on le sait, des mosquées, etc., etc. Voilà. Elle a fait ça pendant 3 ans. Hein. Et on a reproché d'ailleurs à Colin Powell, qui n'a pas que des défauts, d'avoir fait ce tournant vers le marketing, et il a eu cette réponse incroyable, pour montrer que tout est lié. Il a dit, écoutez, cette femme m'a convaincu d'acheter le riz Uncle Ben's. Alors je pense qu'elle peut vendre l'Amérique au reste du monde. Et les journalistes ont répondu, en se moquant un peu de lui, est-ce que celle qui a vendu Uncle Ben's à Colin Powell sera capable de vendre Uncle Sam au reste du monde? Donc, vous voyez, c'est... Et d'où ça vient? Alors, je fais peut-être un rapide cursus là-dessus. Au départ, on a dit, Watergate, c'est la naissance du quatrième pouvoir. En vérité, quand on lit ceux qui ont participé à l'affaire et qui ont publié leur mémoire maintenant, on se rend compte que le Watergate, pour tous les conseillers en communication, les conseillers politiques de l'époque Nixon, parce qu'il y avait ceux qui étaient en place, puis il y avait leurs amis, enfin, c'est toute une, comment dire, une couche sociologique qui se transmet le pouvoir au gré des alternances, etc. Ils racontent tous que ça a été un véritable traumatisme, parce qu'ils ne pouvaient jusque-là pas imaginer que la presse puisse mettre à bas une présidence. Et certains qui étaient au sommet du pouvoir, ils le racontent comme ça, se sont retrouvés en prison. Donc le Watergate, c'est un énorme traumatisme qui fait qu'après le Watergate, plus rien n'est comme avant, et ce n'est certainement pas la naissance du quatrième pouvoir, c'est le contraire. C'est la naissance du contrôle de l'agenda médiatique par les hommes politiques. À la Maison-Blanche, on crée le Bureau d'information et de la communication. Ce bureau a pour mission de faire l'agenda des médias. C'est-à-dire que c'est fini les rencontres informelles, comme ça. Chaque jour, on crée la ligne du jour, the line of the day. C'est-à-dire que vous imposez aux médias une thématique, un sujet politique, peu importe, vous couplez en général avec un déplacement, avec la rencontre d'une couche de population, et vous matraquez toute la journée sur cette ligne-là. D'ailleurs, Reagan, qui a été le premier à l'appliquer systématiquement, les journalistes lui posaient des questions et il disait « Écoutez, je vous réponds pas, parce que si je vous réponds, vous allez parler d'autre chose que de la ligne du jour. » Donc c'était extrêmement clair. Hein. Et apparaît avec Reagan aussi, parce que il a les fameux spin doctors qui apparaissent sous Reagan aussi, parce qu'il y avait un débat entre... Bon, je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, mais c'est intéressant parce que le terme spin doctor, ça vient de là. Il y a un débat, on l'a vu avec Ségolène aussi et Sarkozy, un débat pour la présidentielle, et Reagan avait été battu par son rival au niveau des arguments, enfin de ceux qui ont suivi le débat. Il sortait plutôt perdant. Son conseiller en communication est interrogé par les journalistes à la sortie du débat, et lui dit, nous allons spin afterward. C'est-à-dire, nous allons, spin, ça, vous savez, c'est comme donner l'effet à une toupie. Hein. Nous allons gérer l'après-débat. Aujourd'hui, dans tous les débats politiques, l'après-débat est plus important que l'avant. Peu importe ce qui s'est passé pendant le débat, si vous arrivez à persuader le lendemain avec des sondages que c'est un tel qui a gagné le débat, l'affaire est entendue. Et c'est le surlendemain qu'un éditorialiste du New York Times emploie cette expression pour la première fois de spin doctor. C'est-à-dire des gens dont le but est de faire tourner, de retourner l'opinion, hein, de lui donner un effet comme l'effet d'une toupie ou l'effet qu'on donne à une balle dans le tennis, par exemple. Et ça veut dire aussi, et c'est intéressant parce que ce sens est un peu dissimulé, ça veut dire aussi filer. Hein. Le spin, c'est le tissage. Hein. Donc c'est comme tisser une histoire, en fait, hein, filer une histoire. Et on parle à partir des années 90 non plus de spin doctor, mais de story spinner, c'est-à-dire de tourneur d'histoire. Hein. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, c'est sous Clinton, là encore, que les choses commencent. Avec Carville, James Carville, qui est actuellement le conseiller aussi d'Hillary Clinton, qui disait à la suite de la défaite de John Kerry en 2004, vous savez, les démocrates disent, nous voulons de meilleures écoles, des soins de santé répartis socialement, sa sécurité sociale, etc. Ils énumèrent les républicains disent nous allons vous protéger des homosexuels d'Hollywood et des terroristes de Téhéran. C'est James Carville qui parle comme ça. Ils racontent une histoire, nous récitons une litanie. Et il dit, moi je suis d'accord avec la plupart des éléments de cette litanie, mais nous ne gagnerons jamais si nous récitons une litanie. Alors il ajoute même, on pourrait faire élire n'importe quel acteur d'Hollywood s'il avait une histoire à raconter à propos de la nation. Presque mot pour mot ce qu'a dit Anguiano. Donc il y a cette idée-là, mais vous avez aussi quelqu'un comme Alastair Campbell, le conseiller de Tony Blair, c'est la même époque, hein, début des années 90, qui explique ça très bien. J'ai participé à un débat avec lui, il dit la chose suivante. Quand on est arrivé, eh bien, non seulement Internet, mais les chaînes par câble, les chaînes satellites, les chaînes d'information continue, 24 heures sur 24, j'ai oublié de dire, c'est très important. L'offre médiatique est bouleversée complètement. Avant, vous aviez la messe du 20h. Enfin, en gros, l'ensemble de la journée, vous étiez tranquille. Vous vouliez travailler. Hein. Là, maintenant, la messe du 20h, c'est terminé. C'est 24 heures sur 24. Les journalistes peuvent monter en épingle un fait, sachant que la médiasphère a horreur du vide comme la nature, et que si, c'est exactement ce que je disais à propos de Nike, si vous ne vous racontez pas une histoire, ce sont les autres qui racontent une histoire sur votre dos. Donc les hommes politiques sont obligés, explique Alastair Campbell, de maîtriser et de structurer un peu cette attention médiatique. Sinon elle part dans tous les sens, et leur politique est inaudible. Hein. Et il a cette expression formidable, qui je trouve exprime assez bien les choses, il dit, nous avons appris à faire la météo. Vous voyez, faire la météo c'est autre chose que manipuler idéologiquement les gens. C'est créer l'environnement dans lequel... vous avez le choix entre blanc et noir, mais ça fait partie de la même problématique. Hein. Et si vous regardez les débats politiques actuellement, vous verrez que vous êtes tout le temps enfermé dans des dilemmes pré-écrits. Travailler plus pour gagner plus. C'est un effet de sidération, oui, ça paraît le bon sens, oui, si on travaille plus, on gagne plus. Si on réfléchit un peu, c'est pas du tout comme ça, mais il faut réfléchir. Il faut sortir de l'histoire. Or, on vous assène ça à longueur de temps, et il faut revaloriser la valeur travail, etc., etc. C'est une espèce de logomachie, hein, qui est une bande dessinée, qui ne correspond pas à la réalité. Comment vous allez expliquer à une mère de famille, par exemple, qui a déjà deux journées de travail, si elle travaille plus, elle gagne plus. Il suffit d'avoir des enfants, pour savoir si vous voulez travailler plus, à un moment donné, il faut prendre une babysitter à temps plein. Et donc, vous ne gagnez pas plus, vous gagnez moins. Vous dépensez plus en garde d'enfants. Donc, bon, c'est un exemple tout bête, mais il y en a des milliers. Or, la gauche ne fonctionne plus, elle aussi, prise dans cette obligation de faire la météo et de répondre à ce niveau-là de débat. Vous avez vu le soir des municipales, c'était frappant. La droite avait ses règles de langage, minimiser la défaite. La droite avait ses règles de langage, la gauche, pardon, avait ses règles de langage. C'est-à-dire, nous avons gagné, mais pas de triomphalisme. Hein, et vous êtes là, tout à fait, à regarder les balles, des spins. Et de quoi on parle concrètement? La gestion locale, la gestion municipale, les enjeux, je ne sais pas, l'architecture, la santé, l'éducation. Non, rien. Hein, donc, vous voyez, c'est ça, faire la météo. Alors, aux États-Unis, le problème, c'est que ça se développe de manière considérable. Parce qu'il y a des chaînes de télé comme CNN, mais c'est pas la pire. À la fin des années 90, les républicains créent la fameuse chaîne Fox News. Il faut savoir que le PDG de Fox News, c'est un des éminents représentants et créateurs de ce fameux bureau d'information et de communication de la Maison Blanche sous Reagan, hein, et sous Nixon. Donc lui, il a une conception nouvelle du journalisme, il dit, de toute façon, être objectif, ça ne veut rien dire, il y a tellement d'informations, hein, comment faire à voir si on ne peut pas être objectif? Donc, on va structurer l'information autrement. Du sommet de la chaîne, on décide chaque jour quelle est la story du jour. Et cette story du jour est déclinée dans tous les services. Et évidemment, en général, la story du jour, c'est la même que la story du jour de la Maison Blanche. Hein. Donc ça facilite les choses. Voilà comment on contrôle l'agenda médiatique. Et si vous avez une force de frappe assez puissante, les autres médias sont obligés de se comporter par rapport aux thèmes que vous imposez. Et donc vous avez comme ça une sorte d'orchestration du débat public qui fait que, madame, vous dites que vous êtes communiste et que vous lisez l'Humanité. Moi, je suis pas communiste, mais sur le, et je c'est pas mon rôle ce soir de donner mes opinions, mais ce que je voudrais dire, c'est que d'un simple point de vue sémiologique, pendant le débat présidentiel, la seule personne que j'ai entendue tenir un discours qui échappait au storytelling, la pauvre, ça a coûté cher, c'est Marie-Georges Buffet, qui désespérément dans tous les débats essayait d'articuler des, je ne dis pas que je suis d'accord avec toutes les propositions qu'elle faisait, mais elle se situait sur le plan du rationnel, d'une analyse objective de la société, de, voilà. Pas de raconter des histoires frappantes, pas de toucher les handicapés dont l'ex-mari de Ségolène Royal, paraît-il, a fait rire tous les gens qui étaient autour de lui. Quand Ségolène s'est approché du fauteuil d'un handicapé, il a dit « S'il se lève, elle a gagné ». Voilà. Non mais bon, je termine juste sur les États-Unis parce que on a vu sous George Bush ce storytelling atteindre véritablement une dimension vraiment le niveau d'un mensonge monstrueux à propos de la guerre en Irak par exemple, où on a inventé les armes de destruction massive, on a inventé comme des stories, la connexion supposée entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, dont maintenant la CIA reconnaît qu'elles n'ont jamais existé. Hein. Mais je voudrais juste vous citer un dialogue qui a lieu entre Karl Rove, le storyteller de George Bush, et un journaliste qui se fait réprimander un petit peu dans le cadre d'un article qu'il avait écrit critiquant la politique de Bush. Il est convoqué à la Maison Blanche et Karl Rove lui dit avec mépris, vous, sous-entendu les journalistes qui nous critiquaient, vous appartenez à ce que nous appelons la communauté réalité. The reality-based community. Ça veut dire la communauté des gens qui se basent sur le réel. Alors le journaliste croit rêver. Enfin, écoutez, on est journaliste. Bien sûr qu'on se base sur la réalité de qu'on parle. Et puis les lumières, et puis le journalisme d'investigation, le recoupement des sources, enfin c'est notre métier, de quoi vous me parlez? Karl Rove lui coupe la parole avec mépris et lui dit, écoutez, les choses ne se passent plus comme ça aujourd'hui. Nous sommes un empire maintenant, et lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et vous pouvez commenter judicieusement, comme vous savez le faire, cette réalité, mais pendant que vous commentez, nous en créons une autre, et les choses se passent ainsi. Vous voyez qu'on atteint là un degré de cynisme considérable, de la même manière que lorsque, après le 11 septembre, on doit construire une coalition internationale, là je cite que des gens qui ne sont pas des gauchistes, ni même des gens de gauche, puisque c'est un militaire, un expert de la simulation, qui a conçu les plans de la prise de Bagdad, qui est maintenant à la retraite, et qui fait le bilan de la guerre en Irak et du rôle du storytelling, du storyteller politique, comme il dit. Là, au mois de décembre 2007, en Angleterre, il est intervenu, et il a raconté la chose suivante, on a laissé la bride sur le cou au storyteller politique. Et c'est une catastrophe, parce que jamais on avait raconté autant d'histoires sur une guerre. Et les militaires ne devraient jamais se laisser dessaisir de la communication de crise et de guerre. Il donne un exemple. Il dit, le plus coupable de tout ça, c'est Campbell, le conseiller de Tony Blair dont j'ai déjà parlé, qui a organisé non seulement la thématique, mais le timing des messages de communication. Et ici, donne un exemple, le mois de novembre 2001, je n'ai plus la date en tête, mais bon, une date c'est le 11, l'autre c'est le 14, je crois, novembre 2001. À Washington, Laura Bush déclare « C'est le moment de construire la coalition internationale, de convaincre des pays hésitants de venir la rejoindre. » Et Laura Bush, dans le cadre de cette campagne, inspirée par Campbell, déclare la chose suivante. En Afghanistan, lorsque vous êtes une femme et que vous avez les ongles vernis, on vous arrache les ongles. Trois jours après, à Londres, Sherry Blair dit, vous savez, en Afghanistan, lorsque vous avez les ongles peints, on vous arrache les ongles. Le chef de la communication de la Maison Blanche dit « La campagne sur la mobilisation pour les femmes afghanes a été la chose la plus merveilleuse que nous ayons fait, qui a permis de construire vraiment la coalition. » Vous voyez, il ne s'agit pas, là, on n'est pas dans la politique ou dans l'idéologie, au sens où on a chacun un avis, etc. Ce sont des techniques de communication qui ont pour objet, à un moment donné, puis vous êtes un spectateur, et d'un coup, on parle beaucoup des femmes afghanes. On n'en parle plus aujourd'hui des femmes afghanes. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que leur situation s'est vraiment améliorée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'en parle plus. On en parle à un moment donné pour mobiliser l'opinion sur des thèmes. Et donc, on a comme ça une sorte de focalisation de l'attention suivant un agenda médiatique qui correspond à un agenda politique, et là, dans ce cas-là, militaire. Et ce militaire à la retraite disait, mais finalement, c'est absolument terrible de faire ça, parce que même si un homme politique aujourd'hui vient dire la vérité, il ne sera pas cru par la population. Et il a cette phrase que je trouve terrifiante, il dit, le choc post-Irak sera pire, le traumatisme post-Irak pour la population sera pire que le traumatisme post-Vietnam, à cause de ces mensonges qui ont été racontés. Donc vous avez là une sorte de virtualisation de toute la communication politique qui fait que le réel n'a plus de sens. Alors là, moi, on m'interrogeait aujourd'hui parce que j'avais constaté que Nicolas Sarkozy a changé de fusil d'épaule dans sa communication. Alors, c'est Carla Bruni maintenant qui est l'attachée de presse qui intervient dans Le Monde. Ils vont aller voir la reine d'Angleterre, ils s'occupent des poilus, etc. Et donc on me demande, mais alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis, mais il a oublié une chose qui est très importante. Si on veut faire du storytelling, il faut le faire bien. Vous ne savez pas de changer l'histoire. Le problème, c'est que les gens se sont rendus compte qu'ils racontent des histoires. Donc il en raconte d'autres, tout le monde va dire, mais bon, ça y est, c'est sa nouvelle histoire. Ça ne marche pas, parce que c'est très important quand vous faites un récit, ça on le sait depuis le début du roman, qu'est-ce que fait un narrateur au début d'un récit? C'est d'asseoir son autorité, sa crédibilité. Sinon, vous ne rentrez pas dans la fiction, vous nous racontez n'importe quoi celui-là. Donc vous avez Cervantes qui dit, je vous raconte l'histoire d'un certain Don Quichotte, tel que me l'a raconté un certain Sidamet, machin. Donc, il y a différentes techniques pour asseoir la crédibilité du narrateur. Mais lorsque c'est la crédibilité même du narrateur qui est atteinte, il peut raconter tout ce qu'il veut, il ne sera plus cru. Et c'est ça le problème, je crois, aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que la gauche a perdu les élections aussi parce que Ségolène n'avait pas la crédibilité comme narratrice. Elle faisait du storytelling, mais elle n'avait pas réussi à asseoir sa crédibilité. Alors, différentes raisons, les médias étaient évidemment orientés de manière outrancière du côté de Sarkozy, mais quand même, elle n'a pas réussi à crédibiliser. Mais vous avez ce problème, qui est le paradoxe, un peu, je terminerai là-dessus, du storytelling, c'est que vous ne pouvez pas défaire la politique et reconstruire un récit politique. Vous ne pouvez pas défaire cette architecture démocratique, couper le lien avec l'histoire, priver les gens de vision du monde, de vision d'avenir, et en même temps, un peu comme je disais à propos du fordisme dans l'entreprise, refabriquer un petit récit rapiécé qui soit crédible. Quand je parlais de Gaulle avec la nation est une narration, mais même Mitterrand, peu importe le personnage, mais était porteur quand même d'un discours unité populaire, 36, les congés payés, ça s'inscrivait là-dedans avec l'espoir d'une avancée. C'est peut-être une fiction, mais ça reposait quand même sur une histoire réelle, sur des conquêtes, sur des luttes, sur des expériences des hommes et des femmes, etc. Quand il est élu, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Panthéon. Quand Sarkozy est élu, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que Mitterrand descend les marches lentement, une rose à la main, l'autre il enjambe les escaliers de l'Elysée en short et en New York Police Department. Vous voyez? Et moi je ne pense pas qu'il l'a fait parce que c'est un imbécile, non, je pense qu'il l'a fait parce que le ressort de la loft politique ou du storytelling politique, c'est de transgresser. Il faut transgresser les bonnes manières, il faut transgresser les habitudes, c'est ça le discours de la rupture. Mais sauf qu'à force de transgresser, vous détruisez les bases même d'un récit. Vous pouvez répéter tous les matins, rupture, 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 oui, et après, bon, alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Pouvoir d'achat, on va y arriver, la croissance, le chômage, bon. Et alors, en plus, dans le cas de Sarkozy, il y a un certain nombre d'erreurs techniques de storytelling, c'est-à-dire que, ça j'en ai parlé avec Guénaud, il était aussi d'accord sur le fait qu'à un moment donné, le narrateur n'est plus Henri Guénaud qui raconte peu importe une histoire, un cas de la nation, mais vous avez toutes sortes de narrateurs qui se mélangent les pinceaux et qui se passent le relais de l'histoire. Il y a Martinon, il y a Catherine Pégard qui dit mon boulot c'est de raconter le scénario de la présidence depuis le dîner. Vous avez Emmanuel Mignon qui fait son petit récit dans son coin sur les sectes. Et au milieu, vous avez Nicolas Sarkozy qui passe d'un sujet à l'autre, d'un sujet comme l'Europe qui a été programmé, travaillé par les experts, communication, etc., à une anecdote à Euro Disney, de Kadhafi au conte de Noël. Et là, vous avez une sorte de... Je pense que c'est ça, plus que... les raisons, alors là, les commentateurs politiques disent, ouais, à la conférence de presse, il a dit, plus de pouvoir d'achat. Les caisses sont vides. Moi, je crois pas que c'est ça. Moi, je crois que les gens sont désorientés. Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ils travaillaient plus pour gagner plus, puis ils vont en Égypte, ils prennent des vacances deux fois de suite, ils se payent un mannequin, ils viennent de divorcer, ils se remarient, français, bon, quand même, il y a un délai de viduité, comme on disait dans l'ancien temps, qui n'est pas respecté, mais c'est même pas du point de vue moral, du point de vue narratif, sinon vous décrochez, vous dites, attendez, c'est n'importe quoi, mec. Et ensuite, et alors vous avez le SMS, vous voyez, donc il y a une sorte de d'ébullition comme ça, qui est évidemment amplifiée par Internet, les médias, etc., qui fait que, au bout d'un moment, eh bien, c'est la parole politique qui a perdu son crédit. Voilà, je vous remercie.